Ok, alors plongeons ensemble dans ce document officiel d'Autodesk, le fameux Proxy Statement, hein, celui pour l'Assemblée Générale du 16 juillet 2024. C'est un peu dense, c'est vrai.
Oui, un peu aride parfois.
Mais on va essayer d'en extraire l'essentiel pour comprendre ce qui se passe vraiment en coulisses chez Autodesk.
Exactement. Ce document, en gros, c'est ce qu'on envoie aux actionnaires avant qu'ils votent. Ça couvre tout. Les finances, la stratégie, qui est au conseil d'admin, comment les chefs sont payés, et puis les grosses décisions à prendre.
D'accord.
Et notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter ça pour ceux qui utilisent Revit ou AutoCAD tous les jours, mais qui connaissent moins le jargon boursier. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur la santé de la boîte, sa direction, sa vision ?
Parfait. Alors, justement, comment ça va chez Autodesk ? Au-delà des nouvelles fonctionnalités logicielles, les affaires tournent, les chiffres sont bons.
Globalement, oui, plutôt bons. Pour l'année fiscale 2024, les revenus ont grimpé à 5,5 milliards de dollars. C'est une hausse de 10%.
Pas mal.
Et ce qui est vraiment notable, c'est que 98% de ces revenus sont récurrents, liés aux abonnements en fait.
98%, ah oui quand même. Ça, c'est le signe d'un modèle d'abonnement qui tourne à plein régime, quoi. Une base très solide.
Tout à fait. Ça leur donne une visibilité financière assez énorme. Bon, il y a eu une petite fluctuation quand même.
Ah.
Le flux de trésorerie disponible, l'argent qui reste vraiment après toutes les dépenses, il a baissé temporairement. On est passé de 2,03 milliards l'année d'avant à 1,28 milliard.
D'accord. Une baisse sensible. C'est dû à quoi ?
C'est principalement lié à leur changement de facturation pour les contrats sur plusieurs années. Au lieu de recevoir un gros paiement au début, maintenant c'est facturé annuellement.
Ah oui, d'accord, donc moins de cash qui rentre d'un coup.
Voilà, mais c'était attendu, prévu dans leur plan. Et ils estiment que le creux de la vague est passé maintenant.
Intéressant. Et est-ce que cette transition financière, elle s'accompagne d'une évolution plus large ? Stratégiquement, ça bouge aussi pour nous les utilisateurs ?
Oui, oui, clairement. Ils modernisent leurs relations clients, avec un modèle de transaction qu'ils veulent plus direct. Et côté produit, ben, ils poussent à fond vers des solutions intégrées dans leurs fameux clouds industriels.
Les clouds AEC, MNE.
C'est ça. L'idée, c'est de s'appuyer sur des services de plateforme communs et leur data model, pour faire simple, que les données d'un projet circulent beaucoup mieux entre tous les logiciels. Fini les silos, en théorie.
Ok, une stratégie assez ambitieuse. Ouais. Mais qui pilote tout ça ? Qui prend les grandes décisions au sommet ?
Alors ça, c'est le conseil d'administration. Il propose 11 membres à l'élection cette année. Et un point important, c'est l'indépendance.
C'est-à-dire ?
9 membres sur 11 n'ont pas de rôle de gestion directe dans l'entreprise. Les exceptions, c'est le PDG Andrew Anagnost et la DAF par intérim Betsy Raphael.
D'accord.
Cette indépendance est vue comme une bonne chose pour une surveillance objective. Et puis, le président du conseil, Stacy Smith, il n'est pas le PDG. C'est une séparation des rôles classique des bonnes pratiques de gouvernance.
Et est-ce qu'ils écoutent un peu les actionnaires, ceux qui possèdent l'entreprise au final ?
Ils assurent que oui. Ils disent avoir contacté en 2024 des actionnaires qui représentent à peu près la moitié des actions. Pour discuter, prendre le pouls.
Bon, et la question sensible ? La paix des dirigeants, est-ce qu'elle est liée à ces résultats, à cette stratégie ?
En grande partie, oui. La rémunération est principalement basée sur la performance, performance financière et aussi valeur créée pour l'actionnaire.
Concrètement ?
Une part significative est en actions. 60%, ce sont des PSU, des actions liées à des objectifs précis à atteindre. Et 40% des RSU, des actions acquises simplement avec le temps passé dans l'entreprise.
D'accord.
Et fait intéressant, les objectifs ESG, tu sais, environnement, social, gouvernance, peuvent jouer sur le montant final. La diversité, l'impact carbone, tout ça.
Justement, l'ESG, ça donne quoi concrètement chez Autodesk ? Des actions visibles ?
Oui, ils ont des cibles affichées. Viser 100% d'énergie renouvelable, la neutralité carbone pour leurs propres opérations. Ils mettent aussi en avant la diversité. Par exemple, ils disent avoir 60% de femmes parmi leurs Section 6 officers.
Qui sont les plus hauts dirigeants, si je comprends bien.
Exactement. Ceux qui ont des obligations de déclaration spécifiques aux États-Unis. Et ils soutiennent aussi l'éducation, un don de 5 millions de dollars à l'université CUSN, des licences gratuites. L'objectif global, c'est d'allouer environ 1% du bénéfice opérationnel à ces programmes d'impact.
Très clair. Pour finir, il y a un débat soumis au vote cette année qui semble assez important, non ? Sur le pouvoir des actionnaires de convoquer des réunions.
Exactement. C'est un sujet classique de gouvernance d'entreprise. Qui a le droit de déclencher une assemblée générale extraordinaire ? Aujourd'hui, chez Autodesk, c'est seulement le conseil ou quelques dirigeants.
Et donc, il y a débat.
Oui, deux propositions s'opposent. La numéro 4, qui est soutenue par le conseil d'administration, propose de permettre aux actionnaires qui détiennent au moins 25% des droits de vote de demander une telle assemblée.
Et 25%, d'accord. Et l'autre ?
C'est la proposition numéro 5. Elle vient d'une actionnaire et elle veut abaisser ce seuil à 15%.
Donc 25% contre 15%. Quelle est la recommandation du Conseil ?
Ils recommandent de voter pour leur proposition à 25% et contre celle à 15%. Leur argument principal, c'est que 25%, c'est un équilibre. Ça donne un vrai pouvoir aux actionnaires sur des sujets importants, mais ça évite aussi que de petits groupes avec des intérêts peut-être très spécifiques puissent forcer des réunions coûteuses et potentiellement perturbatrices pour la stratégie à long terme.
Une sorte de garde-fou.
Voilà. Ils ajoutent que 25%, c'est d'ailleurs un seuil assez courant dans les grandes entreprises américaines du S&P 500.
Bon, si on résume rapidement, Autodesk affiche une croissance solide malgré quelques ajustements financiers dus à la transition de facturation. La stratégie cloud et data avance, la gouvernance semble privilégier l'indépendance et un certain dialogue actionnarial, et des engagements ESG sont là. Le point chaud du vote, donc, c'est cet équilibre de pouvoir entre actionnaires et direction via ce seuil de convocation.
Tout à fait. Et ce débat sur le seuil, il soulève une question plus large, je trouve. Surtout pour une entreprise technologique comme Autodesk, où l'innovation, la vision à long terme, c'est vital.
Oui.
Comment trouver le juste milieu entre être réactif aux demandes des actionnaires, même minoritaires, et en même temps garder un cap stratégique stable sans être constamment bousculé par des initiatives potentiellement court-termistes ? C'est tout l'enjeu.
C'est une excellente question à méditer, en effet. Surtout en attendant de voir comment les actionnaires vont voter. Voilà, c'était notre exploration du Proxy Statement 2024 d'Autodesk.